Le psaume 23. Vous connaissez ce texte, je suppose, pour la plupart. C'est un texte qu'on entend des fois au travers de certains films et surtout, pourquoi, on ne sait pas trop, mais au travers des décès. Mais ce n'est pas uniquement quand il y a un décès qu'il faut parler du psaume 23. C'est en tout temps. Oui, non, vous n'êtes pas d'accord? Parce que ce que David dit là, c'est très important. Alors on le lit ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde de joie, de bénédiction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et au final, eh bien, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, c'est le ciel, la nouvelle Jérusalem céleste. Oui, tous les jours, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Là, il revient à ce qu'il dit, il me bénit et je serai ensuite dans sa maison pour l'éternité. Alléluia. Quelle grâce. Mais c'est quand même important ce texte. David a vécu... Et il témoigne de sa vie avec Dieu, de ses expériences avec Dieu. En quelques mots, il dira, en débutant, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et ensuite, il dit, « Il me fait reposer, il me dirige, il restaure mon âme, il me conduit à cause de son nom. » C'est-à-dire, ce qu'il a promis en son nom, il ne se renie pas, il accomplit. Alléluia. Ce qui veut dire qu'après-midi, si vous êtes un petit peu, excusez le mot, déboussolé dans votre vie, faites confiance à Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Et la Bible dit, tournez-vous vers moi et vous serez rayonnant de joie. Alléluia! C'est ça qu'enseigne la parole. Alors, à partir du moment où je laisse rentrer l'amour de Dieu en ma vie par la personne de Jésus-Christ, alors qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais dire comme David. L'Éternel est mon berger, parce que Jésus, c'est le bon berger. Il me fait reposer, il me dirige, il me restaure, il me conduit tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, il sera là. Alléluia. Et cela à cause de son nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous le recevrez et vous le verrez s'accomplir. Et ma parole est la vérité. C'est ce que dit Jésus. Mais en allant un petit peu plus loin dans cette pensée après-midi, il dit quand même quelque chose. Il nous dit simplement, je ne crains aucun mal. Alléluia. Car tu es avec moi. Gloire à Dieu. C'est des bonnes paroles et ça réjouit le cœur d'entendre de telles choses. Mais il ajoute, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah, ça c'est formidable. Alors, pendant quelques minutes, je vais m'arrêter sur cela. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça nous parle encore du bon berger. C'est le berger qui tient le bâton. Mais vous savez, quand David dit ta houlette et ton bâton me rassurent, c'est une belle parole. D'ailleurs, ce même verset traduit différemment dans une autre traduction, dira « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es près de moi. » Eh oui, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et ta houlette. La houlette, c'est le bâton du berger, vous connaissez tous. Mais vous devez aussi connaître qu'au bout du bâton du berger, je vais dire entre guillemets du vrai berger, parce qu'on voit des fois des bergers, je reviens là. Parce qu'on voit des fois des bergers, hein, ça arrive là, dans les pâturages, ils ont un bâton, mais ils n'ont pas le bâton comme il est écrit ici dans le psaume de David. Et par contre, il y en a qui l'ont. Ils ont la houlette qui est au bout, et la houlette, la houlette, pardon, c'est un espèce de crochet, vous voyez, qui fait un cercle comme ça, comme arrobase, tac, vous voyez, à peu près le même style. Et ça, c'est très important pour le berger. Parce que quand une brebis s'éloignait, eh bien, au lieu d'y courir après, dès qu'il la voyait s'éloigner, il prenait son bâton qui était assez long, d'ailleurs, et il la mis par derrière la brebis, et il l'accrochait par la patte, et il la tirait comme ça. Alors moi, je vais vous poser une question. Pourquoi le berger, il avait cette houlette, et qu'il allait avec ce bâton chercher la brebis? Est-ce que vous avez une explication? Non. Pour pas y courir après, c'est bien. Mais vous savez que la brebis est peureuse. Donc, réfléchissez. Si c'était, comme vous dites, approcher en courant la brebis, comme on dit chez moi, scapa, hein? Elle se serait... Alors, il ne pouvait pas s'approcher pour la saisir. S'il avait voulu la saisir, elle aurait fui, elle serait allée plus loin. Alors, en étant à une certaine distance, sans l'apeurer, il attrape, il attire. Ça s'appelle le bon berger qui veille à ce que la brebis ne s'égare pas et ne s'éloigne pas du berger. Parce que le berger, ce qu'il veut, c'est que sa brebis soit heureuse, qu'elle ne soit pas égarée et qu'elle ne finisse pas dans la gueule d'un loup ou autre, d'un ours. Non, il protège son troupeau, il protège sa brebis. Et vous savez que quand Jésus parle de la brebis égarée, il dit « Quand une brebis égarée, le bon berger va à sa recherche. Quand il la trouve, il la prend sur ses épaules et il la ramène à la bergerie. » Ça, c'est la belle image de Jésus-Christ qui veut prendre soin de chacun d'entre nous, qui veut prendre soin de toi toute ta vie, mon ami qui est là peut-être pour la première ou une du première fois. Jésus veut devenir ton divin berger. Il veut être ta houlette, celui qui te protège, celui qui te ramènera toujours dans le troupeau, dans le peuple, qui te ramènera toujours auprès de celui qui peut te donner toute son affection et que tu puisses y goûter. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que quand on change le sens du bâton, quand les loups arrivent ou l'ours est là, c'est avec le bâton que le berger fait fuir l'adversité. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce qui veut dire en clair, c'est en vivant dans la présence du Seigneur Jésus que nous serons rassurés, gardés et que la victoire est assurée. Vous voyez ? Victoire éternelle, bien sûr. Nous aurons des victoires avec Jésus sur cette terre, dans notre vie terrestre. Mais la plus belle des victoires que Dieu veut accorder à l'humanité, mais l'homme, aujourd'hui nous le savons, rejette, pas tous, mais plusieurs, rejettent l'amour de Dieu. Vous, après-midi, si vous êtes là, c'est que vous aimez l'amour de Dieu. Vous voulez être rempli de l'amour de Dieu. Vous voulez connaître une vie nouvelle avec la présence du Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassure. C'est-à-dire que en même temps, quand on va au fond de la réflexion, c'est que la houlette sert à garder, à protéger, mais en même temps, je me mets sous la conduite du berger qui prend soin de nous, ou de moi, comme de la brebis. Et d'autre part, je me mets sous le regard de celui qui veille pour que ma marche soit une marche assurée, agréable à Dieu, et que je puisse gagner le ciel avec son secours. Maintenant, je le disais tout à l'heure, Dieu est celui qui, en Jésus-Christ, accorde notre victoire. Nous avons chanté tout à l'heure des chœurs qui rappellent des paraboles, mais je voudrais vous dire aussi que dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, David, qui a composé le psaume 23, s'est écrié un jour comme ceci, je vous le lis, 1 Samuel 17, 46-47. Aujourd'hui, il faut que je vous dise que ce texte prouve que tout en étant ado, on y revient, David avait une foi extraordinaire en Dieu. Et les deux versets que je vais vous lire là concernent David vis-à-vis de son adversaire Goliath. Alors mettez-vous un petit peu dans la tête. David est un adolescent quand il va sur le terrain où les Philistins veulent détruire le peuple d'Israël. Quand David arrive, il voit que les Philistins ont une arme secrète. Vous l'avez remarqué ? C'est pas un tank, c'est pire, ça s'appelle Goliath. Oui. Alors, quand Goliath s'approchait du peuple d'Israël, tout le peuple juif, apeuré par sa grandeur, sa force, sa voix, pof, ils cavalaient tous, ils partaient, wow, il est là. Et arrive l'adolescent, David. Voilà, va trouver Saül. Ouh, Goliath, il a insulté l'Éternel. Eh bien, j'irai combattre. Et Saül, il va lui dire, mais attends, tu es un ado. Tu ne peux pas aller combattre Goliath. Tu es trop jeune. Alors, si, je vais combattre Goliath. Et je vais le vaincre. Alors, devant son insistance, Saül va dire, ben, prends mon armure. Imaginez encore. Saül, c'est un adulte. Un guerrier. Il dit, prends mon armure. Mon armure. Mais quand il a mis l'armure, là, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait rien faire. Il dit, non, moi, je vais au combat, je vais aller au bord du torrent, je vais ramasser 5 pierres et je vais aller au combat. Mais dites donc, vous irez, vous, avec 5 pierres, au combat ? Un géant ? Hein ? Alors, il va y aller, il va chercher sa pierre, ses pierres. Il va aller au combat, il va aller face à Goliath. Et Goliath lui dit, mais qui c'est qui m'envoie ça, là ? Il insulte encore l'armée de l'Éternel. Il abaisse David. Mais David va dire ce que je vais vous lire. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai, quelle foi, et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Il n'a pas dit, il reconnaîtra que David est le meilleur. Non, que Dieu est le Dieu de l'armée d'Israël. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Quelle foi, quelle confiance en Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Il n'a pas dit entre mes mains, il a dit entre nos mains, parce qu'il savait qu'une fois que Goliath serait étêté, mort, alors l'armée d'Israël pourrait devenir conquérante. La victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Et quand on vit une vie de confiance avec Dieu, c'est ainsi. Je dis tout à l'heure, et vous l'avez remarqué, du moins j'espère, tiens, je vais tester voir. Une pierre. Mais quand on réfléchit encore, Goliath avait une stature environ 3 mètres d'eau. Il était couvert de son armure. Il avait le casque. Un casque protecteur pour sa tête. David, lui, il a mis sa pierre. Il est monté devant Goliath et il a fait tourner. Se loger, pas dans un endroit qui n'était pas protégé. Pim! Dans la tête. Alors on se pose une question, où il a une bonne vue? Vous avez réfléchi à ça? Où il a une bonne vue pour trouver l'emplacement? Or, je vous rappelle, 3 mètres, il y a quand même une distance. Et là, d'un seul coup, une seule pierre, il tue Goliath. Qui a guidé la pierre?
C'est le Seigneur. Il a répondu à la foi de David.
Est-ce que vous voulez être des David qui placent leur foi en Dieu, qui comptent sur Dieu, qui progressent dans la vie avec Dieu? Vous savez, Dieu, en Jésus-Christ, veut devenir le bâton de chacun d'entre nous ce soir, sur lequel on pourra s'appuyer, pourra compter. On sait que ce bâton, quand on prend son nom, on combat toute adversité. On combat la maladie au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous sommes guéris de nos maladies. Alléluia. C'est le Seigneur qui le dit. Quand on a une foi, il nous dit qu'on peut même, vous le connaissez ce verset, on le répète, mais c'est vrai, on peut déplacer les montagnes. Toute grande difficulté, Dieu en prend en charge et il nous donne la victoire. Il aplanit nos sentiers. Alléluia, la victoire. En parlant de victoire, vous vous rappelez du peuple d'Israël? Non. Le peuple d'Israël, il a été pendant 400 ans esclave. Esclave de l'Égypte, du roi. Du peuple d'Israël. Mais Dieu est intervenu. Il a envoyé son serviteur, Moïse, qui l'a appelé, qui l'a choisi, qui l'a formé. Et il l'a envoyé pour délivrer le peuple d'Israël. Mais quand vous lisez le texte, vous vous apercevez que Moïse n'est pas allé tout seul. Dieu lui avait donné quelque chose d'important. Un bâton. Oui, c'est bien. Vous avez raison. Mais il y a quelque chose de plus possible. Quand vous parlez du bâton de Moïse, vous savez que ce bâton, c'est ce bâton-là qu'il avait dans la main quand il était berger. Et quand Dieu l'a appelé, il a pu monter sur la montagne. Et quand il est arrivé sur la montagne, il a vu le buisson ardent. Et il a dit qu'il s'est approché et que le buisson ardent, une voix l'a parlé. Il a parlé avec le buisson ardent. Et comme Dieu avait dit, ben, tu vas aller, tu vas libérer mon peuple. Lui, il a dit, ben, moi, je ne peux pas. Hein. On est toujours dans la note. Hein. Et que Dieu lui dit, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il a dit, jette ton bâton par terre. Alors jette le bâton par terre. On est d'accord? Et puis une fois qu'il est par terre, le bâton devient serpent. Voilà. De ce coup. Comment vous auriez réagi, vous? Bon, oui, je pense qu'il était en train de regarder ça. Et... D'autant plus que Dieu lui dit, maintenant, prends-le. Comment ça? Prends-le par la queue. Oula. C'est même des fois, on dit, une couleuvre, ça ne vous fait rien. T'es égal, je m'en vais. Mais quand Moïse, obéissant à Dieu, a pris, est arrivé à prendre le serpent par la queue, et le serpent est redevenu le bois. Le bois, écoutez bien ça, le bois a vaincu le serpent. Quel message, d'après-vous? Qui est mort sur la croix? Qui est mort sur le bois? C'est Jésus. Le bois n'a aucune puissance. Jésus a la toute puissance. Et en montant sur la croix, il a vaincu le bois. Et Jésus nous invite au travers des apôtres. Il nous invite, il nous dit, montez avec moi sur le champ de la victoire. Montez avec le char de la victoire. Montez avec moi sur le char triomphant. Et vous aurez la victoire. Alors Moïse est parti. Et là je reviens. Le bâton, il a un nom, je vais quand même vous dire que ce bâton-là, eh bien, il est merveilleux parce qu'il a un nom merveilleux. Et il est dit que ce bâton s'est appelé le bâton de Dieu. Prends le bâton de Dieu. Alléluia. Alors, vous comprenez que quand Moïse est parti, c'est sûr que au départ, il avait des craintes. Et en arrivant en Égypte, il avait plus de craintes. Il avait avec lui le bâton de Dieu. Et quand on a le bâton de Dieu, on ne craint rien. Dites pas tous alléluia, vous allez me décoiffer. Hein? Ah oui, oui. Je ne crains rien, Dieu est avec moi.
Ta houlette et ton bâton, même au travers de l'ombre de la mort, même au travers des difficultés, je ne crains rien.
Tu es mon divin berger. Or, prenons juste un exemple parce que ça va trop vite le temps.
Un exemple. Le peuple d'Israël est libéré. Et vous savez, ils sont arrivés à 70 familles en Égypte. Quand ils en sont partis, je crois qu'ils étaient à 900 000 personnes. Mais être le berger de ce troupeau humain, Dieu, hein, mais Dieu l'avait formé pendant 40 ans en train de garder les brebis. Qu'est-ce qu'il est devenu ici d'avoir des brebis humains? Mais Jésus sait comment garder les humains, les diriger, les bénir, et l'amour de Dieu se manifester. Alors Moïse est parti à la tête quand le pharaon a décidé, après bien des péripéties, a décidé de laisser partir le peuple d'Israël. Il nous a dit qu'au bout de 3 jours, le pharaon il a dit, mais qui c'est qui va me faire les briques? Il n'y a plus personne, il n'y a plus de main-d'œuvre. Gratuite. Comment je vais faire? Alors il a armé son armée, c'est le cas de dire. Il a pris tous les chars, ses chars, sa cavalerie, et il est parti à la suite d'Israël. Et Israël a progressé, mais il devait progresser lentement parce qu'il y avait des chars, il était chargé, il y avait des enfants, il y avait des animaux. Il devait progresser doucement. Et puis il est arrivé à un moment donné que, obstacle. Comment faire pour passer la mer rouge? Alors peut-être quelques-uns disent, ben, on va essayer de trouver du bois, de faire des radeaux, on va essayer de passer de l'autre côté. Puis d'un seul coup, quelqu'un a crié, les Égyptiens sont là! Folie! On va mourir là au bord de la mer rouge, perdu! Mais quand vous regardez la carte par où est passé, je m'en occupe, je vais les mettre, ils ne vous libéreront plus. C'est difficile pour certaines personnes quand ils entendent les Égyptiens sont derrière et puis il y a le passage ouvert et puis on n'a rien pour se défendre et il nous dit que ça y est, c'est la victoire. Alors, que va faire Dieu? Un miracle. Deuxième miracle, parce qu'on n'y pense pas toujours, c'est que le chemin qui était fait dans la mer Rouge, il était aussi dur que le bouillon, que nous avons fait une terre sèche, était un chemin sec. Et il fallait qu'il soit sec. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si ils avaient passé et que le terrain soit encore boueux, ils n'auraient pas pu progresser, ils se seraient enlisés, les chariots se seraient enlisés. Il fallait que ce soit sec. Et Dieu a pensé au détail. Il a asséché le chemin. Dieu pense toujours au détail dans notre vie. Nous ne devons pas douter de Dieu, mais croire en Dieu et à la puissance du nom de Jésus. Alors, j'aurais voulu être là, moi. Pas vous, au bord de la mer Rouge. Mais j'aurais aimé être là pour savoir ce que les gens ont dit. Hé, Joseph, regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, la mer est coupée en deux, il y a un chemin. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour ma tête que tu veux dire. Oh Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie, toi, le miracle.
Et voilà que d'un seul coup, Moïse a dit, vous les voyez, vous ne les verrez plus. Maintenant, avancez. Et ils ont avancé. Et ils sont passés de l'autre côté jusqu'au dernier.
Et quand le dernier commence à arriver, le digestion, on dit, je vois, je sais, on dit, allez, poursuivez-les, allons-y-nous aussi. Ils sont passés, on va les rattraper. Et il est dit que quand ils sont arrivés au milieu de la route,
d'un seul coup, les chars se sont rentrés l'un dans l'autre et la mer s'est refermée sur eux. Et quand les Israéliens ont regardé ce qui s'est passé, quand ils ont regardé le pays, ils ont dit, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. On comprend qu'une fois, vous savez comment sont les humains, hein. Un moment donné, la veille,
ils étaient en train de dire, bon, on va mourir dans le désert. Parce qu'ils avaient perdu la vision que Dieu était depuis. Ils étaient en train de dire, que Dieu était depuis. Et que le peuple d'Israël avait été gardé. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Alors, et maintenant, ils ont marché, ils étaient. On va au pays promis, la mer Rouge, ah, on ne peut pas passer.
Oh, c'était pas la peine de partir, on aurait mieux fait de rester là-bas. Ils étaient catastrophés.
Dieu les fait passer, d'un seul coup, c'est la joie. Alléluia.
C'est son peuple, il l'a choisi. Parce que là, j'arrête les exemples, parce que je veux pas.
Mais quand ils sont continués à arriver, ils sont arrivés à un lieu, ils avaient soif.
Ça s'appelle les eaux de Mara.
Ah, on va mourir de soif. Et voilà, il recommence. On va mourir de soif. Oui. Comment on est? Ah, ils reviennent. On aurait dû rester en Israël. En Égypte, pardon. Ah oui, oui. Ça passe tout seul, ils sont jamais contents. C'est la humain, ça. Est-ce que vous êtes toujours content? Non, hein. Toujours content, par la pluie ou par le beau temps, comme c'est facile ou difficile, toujours content.
Excusez-moi de vous avoir dérangé. Eh oui, arrêtons. Toi, tu es désolé parce que tu n'as peut-être pas rencontré le bâton qui peut te donner la victoire, qui peut te donner la paix, qui peut te donner la joie, qui peut te donner le miracle dans ta vie.
Mais après-midi, tu peux le recevoir. Il a donné sa vie pour toi. Pour que tu sois béni, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois enrichi de ton esprit. Ça ne tient qu'à toi.
Oh, aux eaux de Mara, Dieu les a-t-il laissés mourir de soif? Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends le bois.
Et tout le monde a retrouvé sa joie.
Merci Seigneur. aujourd'hui, dans notre marche d'enfant de Dieu, permettez-moi de dire ça, on peut connaître des moments difficiles. Mais quand on tourne les regards vers le Seigneur, il y a la victoire, il y a la bénédiction, quand on lui fait confiance. Allez dire, excusez-moi, arrêtons de vous péter et faisons lui confiance. Alléluia. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu l'a dit ce matin à son peuple, je vous aime. Peut-être à une personne particulière, mais à son peuple, je vous aime. Et il vous aimera toujours. S'il ne nous avait pas aimés, s'il n'avait pas aimé l'humanité, aurait-il donné son fils Jésus? Non, mais il est dit, car Dieu vous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors que Dieu nous aide, il y aurait eu d'autres exemples à dire, mais faisons confiance au Seigneur, recevons-le dans notre vie, prenons le bâton de Dieu qui s'appelle Jésus, pour notre bonheur, pour notre vie terrestre et notre vie éternelle, Jésus n'a pas hésité à donner ça. Le combat pour Jésus, on ne peut pas l'imaginer, il a été dur pour le mont Gethsémané. Au point que Jésus a dit que non pas ma volonté, c'était quelque part. Hein, quand il a dit, si tu pouvais éloigner de moi cette vie, il savait ce qu'il allait enlever, ce qu'il allait supporter, ce qu'il allait prendre. Le péché du monde, ton péché, tes iniquités, il les a pris, lui, sur la croix. Non pas ma volonté, mais la tienne. Pour que les gens qui croient en lui soient heureux. Sois béni, sois sauvé. Pour toi cet après-midi. La question c'est que vas-tu faire de l'amour de Dieu? Que vas-tu faire du bâton de Dieu qui s'appelle Jésus? Qui veut accompagner ta vie, qui veut résoudre tes problèmes, qui veut te sauver de l'éternité. Que vas-tu faire? Nous te disons merci Seigneur parce que tu es vivant.